Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. L'épisode du jeune homme riche qui demande à Jésus le moyen d'obtenir la vie éternelle est connu d'après les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui peuvent se lire en parallèle, de Matthieu, Marc et Luc. Saint Marc, au chapitre 10, versets 17 à 30, nous raconte cette rencontre entre Jésus et ce jeune homme dont on ne connaît pas le nom, mais qui est le modèle du personnage de bonne volonté qui cherche à bien se comporter. La réponse de Jésus le désarçonne et met à mal sa façon de vivre. Abandonner ses biens et suivre Jésus, quel drame cornélien! Et pourtant il ne fait aucun mal, il vit conformément à la loi de Moïse et ne comprend pas ce qu'il faut faire de plus. C'est avec Anne-Marie Aitze, qui est mon invitée à ce micro, que nous allons avec vous, chers auditeurs, réfléchir sur cet épisode. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Alors, l'œuvre que vous avez choisie est d'un peintre peu connu, allemand, Heinrich Hoffmann.
Oui.
Voilà, dont les dates sont 1824-1911, mais je vous en laisse dire plus.
Alors oui, Heinrich Hoffmann est né à Darmstadt, oui, dans la Hesse, donc en 1824, et il est mort à Dresde en 1911, donc il avait vécu assez longtemps, 85 ans. Alors c'était une famille d'artistes, hein, donc il n'a pas eu aucun mal à se tourner vers une vocation artistique, puisqu'il a été formé d'abord chez un graveur sur cuivre, puis à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Il est allé ensuite aux Pays-Bas, en France. En 1846, on le trouve à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Il revient en 1848 à Darmstadt. Alors, il se révèle comme peintre pour des portraits. Il est donc un peu spécialisé dans les portraits. Il va à Dresde, il va à Prague, on voit qu'il cherche quand même à se former un peu partout. En 1854, il a 30 ans, il perd sa mère, à laquelle il était très attaché. Et c'est là qu'il va débuter des œuvres religieuses. Il va peindre des œuvres religieuses et il se rend en Italie. Alors en Italie, Venise, Florence, Rome, il voit les grands maîtres italiens, les grands maîtres de la Renaissance en particulier, Giorgione, Bellini, Giotto. Il rencontre à Rome Peter van Cornelius, qui l'accompagne et le conseille. En 1858, il revient à Dresde, il se marie, il n'aura pas d'enfant, et il peint toujours des œuvres religieuses, des retables d'église. Il devient professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde, et il meurt donc en 1911. Donc c'est une carrière assez classique de peintre, de bonne facture et qui a acquis une certaine renommée.
Oui. Avant de continuer, je vais indiquer aux auditeurs comment trouver le tableau que nous allons commenter.
Tout à fait.
Donc si vous voulez voir l'œuvre commentée et l'avoir sous les yeux, vous tapez Hoffmann, H-O-F-M-A-2-N, Jésus et le jeune homme riche. Et vous trouverez ce superbe tableau qui est daté de 1889.
Et ce tableau se trouve à l'église Riverside à New York, avec d'autres tableaux du peintre. Ces tableaux ont été achetés par le milliardaire John Rockefeller.
D'accord.
Voilà. Alors, il avait acheté le Christ et le jeune homme riche. Le Christ à Gethsemane, je crois, qui est très connu. On voit le Christ en
oui,
prière au jardin de Gethsemane.
Oui. Mm-hmm.
Et le Christ au temple.
Alors, que dire de ce tableau par rapport au thème, hein, qui est le jeune homme riche ?
Qu'il exprime tout à fait de façon très sensible finalement l'évangile, quoi, les termes de l'évangile, surtout dans les... Ça représente le au Christ et le jeune homme riche, hein, tout à fait au centre. Nous avons le Christ dans une maison. Le fond est assez sombre de ce tableau.
Oui, ou sous un auvent d'une maison, peut-être.
Sous un auvent d'une maison, oui. Voilà. Puisque sur la gauche, on distingue une terrasse.
Oui.
Une terrasse qui est ouverte sur le paysage. On voit le paysage au loin, des collines, le ciel, bleu, un petit peu jaune. Donc, un mur est éclairé, quand même, indirectement d'ailleurs. C'est une lumière indirecte qu'il y a sur le fond du tableau. À droite, une fenêtre,
oui,
qui donne un petit peu de lumière. Et donc, au centre, le Christ, et à côté, tout à côté, le jeune homme riche. Mais j'aimerais d'abord lire peut-être l'Évangile.
Oui.
Hein, pour avoir le texte entier. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Jésus reprit: « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà. Alors, en effet, cet évangile, on le retrouve aussi dans Marc et Luc. Là, c'est la version de Matthieu, moi, que j'ai trouvée.
Oui.
Voilà. Mais c'est la plus développée, je crois.
Oui, de toute façon, ce sont les mêmes termes, quasiment.
Sauf que c'est... Il n'y a que Matthieu qui parle d'un jeune homme.
Oui, et puis Marc commence son évangile en disant que l'homme a couru et tomba à ses genoux.
Voilà.
Voilà, c'est la seule
différence.
Et Luc différence.
Parle d'un chef.
Oui.
Voilà. Alors, en effet, le tableau, on a donc parlé qu'au centre du tableau se trouvait Jésus. Alors Jésus, il est représenté, le tableau, c'est pas en pied, c'est 2¾ à peu près. Hein, les personnages.
Oui.
Les personnages sont 2¾, mais ils sont bien face au spectateur.
Le Christ est bien face à nous. Le jeune homme, il est plutôt de profil.
Il est de profil.
Voilà. Et il nous tourne un peu le dos.
Il tourne le dos, lui. Donc, le Christ est habillé d'un grand manteau bleu, mais très foncé.
Foncé, oui.
Voilà. Sur une robe rouge. Donc, très sobre comme présentation. Et il est bon, c'est un visage tout à fait classique du Christ, très régulier, cheveux longs, barbe. Et il regarde le jeune homme.
Intensément.
Voilà, on voit en effet, il faut essayer de zoomer sur le tableau. Et là, on voit l'expressivité des personnages et des regards, justement, parce que tout est dans le regard dans ce tableau, en définitive. Donc, il regarde intensément le jeune homme, droit dans les yeux. Et ce jeune homme, il est tout à fait à côté de lui. Et en effet, il est 2¾. Il est presque de dos. On voit sa tête de profil. Il est très, à mon avis, il me paraît très jeune, quand même.
Il est jeune.
Il est jeune, vraiment jeune.
Et vraiment, le peintre a bien mis l'expression d'un peu de tristesse
tout
en disant
fait.
Mais je n'y arriverai jamais.
Et on a l'impression qu'il va pleurer.
Oui.
Tellement,
et il regarde pas Jésus.
Il ne regarde
lui.
Pas le Christ. Il a les yeux baissés.
Oui. Il regarde peut-être les mains de Jésus qui lui propose quelque chose.
Il a les yeux baissés et il a la bouche fermée. Il a le visage triste et fermé. Et en effet, il est très très bien habillé. C'est toute la somptuosité du tableau se retrouve dans les vêtements du jeune homme. Hein, il a une grande cape blanche, toute moirée, qui reflète toute la lumière du tableau.
Galonné
d'une belle bordure noire, un petit peu de velours.
Noir et or, oui.
Voilà. Il a une robe vert en soie qui brille. Et il a la main sur la hanche. Et il a aussi une ceinture, certainement de soie ou de gaze.
Brodée.
Et un chapeau. Multicolore. Et un magnifique turban. Un magnifique turban en velours. Avec tout un bord torsadé, comme un peu tous les turbans, en soie, pareil, avec de bicolores, de plusieurs couleurs, une aigrette, des cheveux bouclés. En fait, c'est vraiment le jeune homme magnifique dans sa présentation et qui étale justement sa richesse, quelque part.
Ben oui.
Et ça contraste avec la tenue du Christ, qui, elle, est toute simple. Une cape et une simple robe.
Mais ce jeune homme, il vit richement, mais peut-être sans le savoir trop. Il est dans son monde, et il vit comme ça au quotidien.
Ça, c'est possible, Il n'a pas sensation de... C'est naturel.
Il n'a pas réfléchi qu'il pouvait y avoir
autre chose. On pouvait lui demander autre chose. Et alors donc, justement, l'attitude de Jésus, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il indique, il montre avec ses mains, ses deux mains sur le côté, ouvertes d'ailleurs, et il montre le côté gauche du tableau sur la terrasse où se trouve en effet un vieillard barbu, à moitié nu, déguenillé un petit peu, accompagné d'une femme habillée, voilée de noir. Alors, il montre ça à la fois dans un geste où il faut regarder de ce côté-là, et en même temps, c'est un geste d'accompagnement. Et donc, je pense que ça correspond à ce que dit le Christ dans l'Évangile. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Nous avons là le pauvre, ce sont les pauvres, les malades qui suivent Jésus pour se faire guérir, pour se faire réconforter. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. C'est ce que dit le geste d'accompagnement. Et là, on voit en effet que le jeune homme, il est bloqué.
Oui.
Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et c'est là que son visage se ferme, où il baisse les yeux, il ne regarde plus Jésus. Alors que dans l'évangile de Marc, on dit Jésus l'aima. Et en effet, dans le regard du Christ, il y a de l'amour.
Oui.
Il y a de l'amour, il y a de l'espérance.
Il
espère qu'il va lui dire oui, il va venir, il va l'entraîner avec lui.
Il essaie de le persuader.
Voilà. Et le jeune homme, non. Là, il est bloqué, il ne peut pas. Et on a l'impression qu'il va partir.
Oui.
Il a quitté.
Il va se détourner.
Il va se détourner. Ce qu'il dit, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En fait, il a raisonné en termes d'avoir. Parce que si on regarde ce qu'il dit, il dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Comme quelque chose qu'on possède.
Oui, et qu'on acquiert.
Voilà,
oui.
Qu'on acquiert. Or, Jésus lui répond « Si tu veux entrer dans la vie, ça c'est autre chose. Ça veut dire laisser, partir. » Et donc, lui, pour les commandements, c'est normal. Pour lui, on a le paradis et la vie éternelle si on observe les commandements. Donc, c'est comme si on a une récompense.
Voilà.
On fait ce qu'il faut, on obéit à Dieu et on a la récompense. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Parce que Jésus lui demande autre chose. Mais lui, il en est un peu conscient quand même. Parce qu'il dit « Que me manque-t-il encore ?» Donc, il est insatisfait.
Et oui.
Quelque part, ça ne lui suffit pas. Il y a comme une espèce de vide en lui. Que me manque-t-il encore ? Et c'est là que le Christ lui dit, si tu ne vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et donc, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ce dépouillement.
C'est
ça. Il n'est pas prêt à tout laisser. Peut-être ça changera.
Oui, il est encore attaché au bien matériel.
Voilà, il est encore attaché au bien
matériel.
Il
ne comprend pas que c'est autre chose que Jésus lui demande.
Oui, Jésus, en fait, lui demande le don et la générosité.
Voilà, et sa personne, en fait.
Alors, si on continue un petit peu l'évangile, Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Eh bien ça, c'est quand même une expression assez radicale. Parce que faire entrer un chameau dans un trou d'une aiguille, bon, c'est quand même, ça pourrait être impossible donc en riche, parce que la richesse n'est pas forcément quand même un handicap. Il suffit d'utiliser cette richesse dans le sens pour les autres,
oui.
Ou du moins de ne pas être suffisamment attaché à elle pour qu'elle soit un obstacle,
voilà,
à la relation avec Dieu.
Oui.
Et puis, il y a quand même une note d'espérance, puisque le Christ dit aussi, il est pratiquement impossible pour l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Donc, pour notre jeune homme, il se peut que plus tard, s'il, avec la maturité, réfléchisse, rien n'est impossible à Dieu, il retrouve les paroles du Christ et il puisse le suivre.
Voilà. Alors, pour revenir à l'aiguille et au trou de l'aiguille, j'avais lu dans mon jeune temps que c'était une image que prenait Jésus, car il y avait une porte, une petite porte à Jérusalem qui portait le même nom étymologiquement que la traduction de chat de l'aiguille.
Ah oui.
Mais qui était toute petite, il fallait se baisser beaucoup pour y passer. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, il faudrait encore rechercher. Mais le chameau, évidemment, encore moins que les hommes. Hein, il ne peut pas passer par cette porte. Voilà.
Oui, mais rien n'est impossible à Dieu.
C'est ça.
Donc, la conversion est toujours possible. Et de toute façon, je dirais qu'en fait, bon, riche, on voit quelqu'un qui a beaucoup de biens, etc., dans cet évangile. En fait, je pense qu'il faut aussi penser qu'on est toujours riche de quelque chose.
Absolument.
Sans être milliardaire, on est toujours riche de quelque chose et on a toujours du mal, bon, justement, à laisser, à renoncer à nos envies, à arriver à prendre la distance, à se dépouiller quand même de ce qui peut nous encombrer. Donc, c'est quelque chose qui, cet évangile, il s'applique toujours, il s'applique à nous.
Hein, bien sûr.
Il s'applique pas.
Bien
il s'applique en fait à tout le monde.
Oui. Le jeune homme riche est un prétexte.
Voilà. Hein. Il faut avoir la liberté d'esprit pour justement suivre Jésus. Et ça, c'est le plus difficile.
Bien sûr, pour tout un chacun. Hein. C'est ce détachement qui vaut 100 fois les richesses. Hein. Il faut se détacher des richesses.
Ça permet de trouver une autre richesse.
Voilà.
Une autre richesse.
Oui, la plus importante et la meilleure. Mmh. Oui, le pauvre jeune homme, il se sent triste parce qu'il sait. Il sait quand même, il est intelligent et il sait qu'il n'y arrivera pas à tout quitter. À tout quitter, parce que là, c'est tout ou rien.
Oui, c'est exigeant, il faut
voilà,
pas croire.
Voilà, c'est tout ou rien.
C'est exigeant ce que demande Jésus. Il lui dit, viens, suis-moi. Ben, c'est-à-dire, les apôtres l'ont fait, ça.
Oui.
Ils sont partis d'un coup et ils ont suivi Jésus.
Oui.
Il leur a dit, viens, suis-moi. Ils ne se sont pas posé de questions. Et ils n'étaient pas riches, il faut dire aussi.
Oui, oui.
mais
oui.
Enfin, quand même, il fallait le faire.
Enfin,
parce qu'ils avaient leur métier, ils avaient
leur vie. Oui,
et donc,
ils
voilà.
sont revenus un peu à leur métier. Enfin, du moins les pêcheurs, hein, avec la pêche miraculeuse. Voilà, ils n'ont pas tout quitté complètement. Mais quand même, c'était un grand pas.
Je crois que... Bon, il est tenu compte de la bonne volonté de chacun. Et on dit qu'il n'est jamais demandé quelque chose qu'on ne puisse pas faire
c'est
quand
ça,
même.
C'est ça.
Donc, il faut aussi relativiser, je pense, hein, quand même. Hein.
On
ne demande pas d'être forcément mendiant sur les routes, comme François d'Assise. Il faut aussi fleurir là où on est planté, comme disait Saint François de Sales. Et donc... Il faut jamais se décourager et être à l'écoute du Seigneur.
Voilà, il faut être
avoir confiance en lui.
L'écoute du Seigneur et des autres.
Des autres
il faut savoir regarder, écouter et trouver les besoins qu'on peut combler éventuellement. Hein. C'est notre mission, qu'on soit riche ou pauvre.
Oui.
C'est notre mission sur Terre, se tourner vers les autres. en vue du salut, certes, mais par générosité profonde, hein, et intime.
C'est ce qu'a fait le Christ. Quand il dit « Viens et suis-moi », il s'est mis à notre service, et en fait, il nous demande pareil.
C'est ça.
En fait.
C'est ça. Et c'est pas toujours facile. On peut voir, on peut entendre, mais ne pas faire.
Ben voilà, c'est là qu'il faut compter sur la miséricorde. Demandez, oui, demandez, oui. Vous recevrez.
C'est toute une mission que nous avons, que chaque baptisé a sur terre. Et c'est vrai que on peut s'investir dans des associations, dans beaucoup d'organismes pour se tourner vers les autres de quelque manière que ce soit. Mais on peut le faire aussi de façon personnelle et sans être vu, je dirais,
secret du cœur.
Dans le secret du cœur, exactement. Voilà. Eh bien, c'est une tâche qui nous incombe à tous, là, et qui demande réflexion. Eh bien, chers amis, Anne-Marie, je pense que vous voulez...
Oui, j'ai terminé.
Voilà, c'est terminé. Très bien, c'est déjà beaucoup.
Oui, voilà.
Merci, en tout
avec
cas,
mes pauvres moyens.
D'avoir partagé ce beau tableau.
Hein, que ah oui, j'invite les auditeurs à le rechercher parce qu'il voilà. est vraiment magnifique.
Hein. Oui, puis il y a une lumière, une luminosité qui émane de...
merveilleux et qui vibre, voilà. Très influencé par la Renaissance italienne, je suppose,
oui.
quand même.
Oui.
Mais puis... en même temps avec le 19e.
Ouais. C'est ça.
Donc plus moderne, quand même. Modernisme du 19e.
Voilà. C'est la lumière de l'espérance voilà, qui jaillit de ce tableau. Voilà, merci beaucoup Anne-Marie pour ce commentaire de l'évangile du jeune homme riche, donc je rappelle à nos auditeurs, avec ce tableau d'Hoffmann de 1889. Merci également à Imanol qui tient toujours les manettes de la technique. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une nouvelle page des Arts Sacrés. À la semaine prochaine, au revoir Anne-Marie.
Au revoir à tous.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.